J'ai toujours trouvé extraordinaire qu'un type puisse dire « Je me suis fait tout à tous » afin d'en gagner de toute manière quelques-uns. J'ai retrouvé d'ailleurs, pour prouver que ça m'intéresse depuis longtemps, j'ai retrouvé une dissertation que j'ai faite à la faculté de Vaux-sur-Seine en 1988. Séminaire interdisciplinaire, se faire tout à tous, Paul et l'accommodation selon 1 Corinthiens 9, 19 à 22, Éric van der Does. Imprimé avec imprimante à aiguille. Donc, pièce collector. J'ai toujours été sidéré par les capacités d'adaptation de cet apôtre Paul qui sont exceptionnelles. Mais cette adaptation qui pose aussi un certain nombre de questions. À qui faut-il s'adapter? Jusqu'à quel point faut-il s'adapter? Dans quel but? Et la question de l'adaptation touche aussi certaines questions importantes, comme celle de la culture, par exemple. On sait bien qu'on ne doit pas se laisser modeler par le siècle présent, par la culture ambiante, mais en même temps, on doit reconnaître que notre culture ou sous-culture nous influence dans notre façon de vivre notre foi et qu'elle peut être aussi un obstacle dans la présentation de l'Évangile. Parce que quand on est chrétien depuis un petit temps, ou même qu'on ne l'est pas, mais avec un peu d'expérience dans la vie, on s'aperçoit vite que pour atteindre l'autre ou communiquer avec l'autre, je dois tenir compte de sa culture, mais aussi de la mienne. Comment dans ces conditions se faire tout à tous? Et puis elle touche aussi cette question de l'adaptation, de se faire tout à tous, touche aussi à la question de l'identité. Si je m'adapte à l'autre, à tout le monde, ne vais-je pas risquer de me perdre un peu moi-même? Culture et identité. Oui, l'adaptation n'est pas une question simple. Et il faut savoir que l'apôtre Paul, donc celui qui a écrit cette lettre aux Corinthiens, où il parle de se faire tout à tous, n'a pas toujours été bien reçu. On a parlé de lui comme étant une girouette. Pour Paul, c'est une girouette. Un caméléon. On a parlé de l'inconsistance et de l'inconstance de Paul, voire même de son incohérence. On n'est pas loin de parler de Paul comme un manipulateur. Il s'adapte aux autres pour mieux les retourner. Bref, la question de l'adaptation n'est pas une question facile. On a abordé le sujet lors d'une réunion d'église il y a quelque temps et on s'est aperçu que la notion d'adaptation ne recouvrait pas la même réalité chez les uns et chez les autres. Non seulement l'adaptation n'est pas une question facile, mais c'est aussi une question délicate. Alors, sans avoir la prétention de faire le tour du sujet et de répondre à toutes les questions que ce sujet soulève, et il y en a un certain nombre, donc aucune prétention, j'aimerais simplement revenir à ce texte biblique et essayer d'en tirer les enseignements sur cette notion d'adaptation, mais par petites touches. Il faut d'abord parler un petit peu du contexte de se faire tout à tous. Pour que le texte ne soit pas un prétexte, il faut revenir au contexte. Et le contexte de cette parole est celui des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, je m'explique. Il y avait à l'époque du Nouveau Testament, en Grèce et dans tout le bassin méditerranéen, des cultes païens et où on offrait des viandes aux idoles ou lors des cérémonies vouées à un certain dieu, on mangeait. Et puis le reste, on le vendait sur la place du marché. Et donc, il y avait un problème de conscience pour les chrétiens qui habitaient à Corinthe. Peut-on manger de ces viandes qui ont été sacrifiées aux idoles? Alors les chrétiens d'origine juive, ils disaient, mais non, on sait très bien que les idoles n'existent pas, donc on peut les manger sans problème. Mais les chrétiens d'origine païenne qui sortaient de ces milieux-là idolâtres, ils se disaient, non, ah non, quand même, ces viandes ont été sacrifiées aux dieux païens, on ne peut pas consciemment le faire. Et donc, un problème vraiment de sous-culture à l'intérieur de l'Église. Alors, on ne va pas refaire tout le débat, mais voilà, le contexte est celui de l'adaptation à des questions culturelles, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le contexte donc de 1 Corinthiens 9, 22 se faire tout à tous est celui des relations dans l'Église, entre frères et sœurs en Christ de culture ou de sous-culture différentes. C'est important parce qu'on a parfois l'impression que l'expression « se faire tout à tous » concernait exclusivement le témoignage chrétien à l'extérieur, ou l'évangélisation, ou la mission, qu'il faudrait pouvoir adapter l'évangile ou la façon de présenter l'évangile à son auditoire et à la culture ambiante. Et quelqu'un comme Hudson Taylor, qui a été missionnaire en Chine au 19e siècle, si je ne m'abuse, avait bien compris cette acculturation, cette contextualisation, cette adaptation. Je suis convaincu, dit-il, que surtout dans les provinces de l'intérieur de la Chine, l'adoption du costume national est une condition absolue de succès, et ce n'est pas seulement le vêtement des Chinois qu'il faut adopter, mais encore, autant que faire se peut, leurs habitudes, leur manière de vivre et même de penser. En un mot, se faire chinois avec les Chinois pour gagner les Chinois. Et la mission à l'intérieur de la Chine a donné de beaux fruits. Aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens chinois. Bon, sur 1,5 milliard, mais il y a des millions quand même. Alors aujourd'hui, tout le monde trouve ça évident que quand on part en mission et quand on est missionnaire, il faut s'adapter au contexte. Il faut se faire tout à tous. Mais on oublie, d'une part, que la mission, c'est ici aussi. C'est en France, en Occident. Et qu'il faut également nous adapter à cette culture qu'on appelle parfois post-moderne. Et donc, il faudrait se faire post-moderne avec les post-modernes pour gagner les post-modernes. Alors, on parle aujourd'hui, maintenant, les post-modernes, c'est déjà dépassé, ça devient les ex-post-modernes. On parle maintenant de pop-culture. Mes enfants se réclament de la pop-culture. Alors, il faut devenir pop culture, enfin ça se dit pas, se faire pop culturel avec les post-pop, ouais bon bref, vous avez compris. S'adapter aux cultures pour pouvoir leur présenter et leur témoigner de Christ. Mais il y a aussi une autre donnée de l'adaptation sur laquelle on passe rapidement, c'est qu'elle concerne aussi la vie dans l'Église. Les relations dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 9, le premier texte que nous avons lu, Paul parle de ces chrétiens mal affermis dans la foi. Il se fait tout à tous par rapport à ces chrétiens mal affermis dans la foi dans laquelle ils marchent déjà. Et il s'agit de se faire tout à tous aussi dans mes relations avec les autres chrétiens. Et puis dans le deuxième passage, il va dire que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Alors oui, se faire tout à tous pour l'évangélisation et dans la mission, oui, mais aussi dans les relations dans l'Église. Agissez comme moi, qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Alors évidemment, il parle de salut, qui pourrait faire croire qu'on parle d'évangélisation, mais il parle des membres de l'Église de Dieu. Alors, à moins qu'il ne doute du salut des membres de l'Église de Dieu, ce qui nous étonnerait quand même, vu le vocabulaire utilisé, on doit considérer le salut dont il est question à la fin du verset. Au sens large, l'annonce du salut en Jésus-Christ pour ceux qui ne croient pas encore, mais aussi l'accompagnement du salut qui est en cours pour ceux qui ont déjà fait une démarche de foi et qui sont en marche. Paul, par son adaptation, cherche le bien de tous, le salut de tous. Il cherche à gagner tout le monde, ceux qui sont en dehors, les outsiders, comme il en parle dans Colossiens 4, mais aussi ceux qui sont les insiders, ceux qui sont au-dedans, ceux qui font déjà partie de la famille de Dieu, et peut-être pour tous ceux qui sont dans le no man's land au milieu. Et il y en a énormément, à la fois un peu dedans, un peu dehors. La ligne de démarcation n'est pas toujours si claire. Mais se faire tout à tous, c'est vraiment tous. Celui qui est en recherche, mais celui aussi qui vit sa foi à côté de moi, que le Seigneur a placé à côté de moi. Mon prochain, quoi. Parlons un petit peu du but de l'adaptation. Et le but de l'adaptation, il faut que ça soit clair, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Paul, à un autre moment, dit « ce n'est pas aux hommes que je cherche à plaire, mais à Dieu ». S'adapter, c'est pas vouloir plaire à tout le monde. C'est pas vouloir passer pour quelqu'un de super cool ou de super tolérant et tutti quanti. Se faire tout à tous, pour Paul, c'est pas non plus jouer des rôles de manière opportuniste pour pouvoir s'en sortir, pour faire le spectacle. Non, c'est pour la cause de la bonne nouvelle, la cause de l'évangile, dans la cause de l'évangile dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas encore, mais la cause de l'évangile dans la vie de ceux qui le connaissent déjà et qui ont déjà commencé leur marche avec Dieu. Pour que les non-chrétiens puissent se saisir de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et pour que les chrétiens qui m'entourent puissent en vivre pleinement. Voilà pourquoi Paul se fait tout à tous. Alors, parlons un petit peu du comment de l'adaptation. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Premièrement, ça veut dire, une proposition, éviter d'être une pierre d'achoppement, qui en grec se dit scandalon, qui a donné le mot scandale. Donc éviter le scandalon, c'est-à-dire un obstacle sur lequel l'autre viendrait trébucher dans sa marche avec le Seigneur. Et le problème avec le mot scandale ou scandalon, enfin c'est pas un problème, c'est à l'origine ça désignait un piège pour attraper quelqu'un, ou même la petite tige en bois ou en métal servant de détente pour le piège. Tout, fiou. Vous voyez ce que... Eh bien, que votre comportement ne soit pas un piège scandaleux sur la route de votre prochain, de ton prochain, nous dit Paul. Et on pourrait dire qu'il faudrait éviter tout scandale. Il faudrait éviter le scandale. Mais le problème avec le mot scandale en français, c'est qu'on a l'impression qu'il pousse au conformisme. Il ne faut pas faire scandale. On va donc se maintenir et maintenir tout le monde dans un certain conservatisme. Quand on est chrétien, alors je vous lance des trucs qui vont peut-être vous questionner au moins. Quand on est chrétien, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne mange pas trop gras. On ne jure pas, on ne va pas au cinéma, on ne s'habille pas de façon excentrique, on ne se tatoue pas, on ne se pierce pas. C'est parfois cette sous-culture dans laquelle nous sommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, cette position très conservatrice qui dit que quand on est chrétien, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, peut être justement un scandale, une pierre d'achoppement. Pour certaines personnes qui pourraient être troublées par ce légalisme. Je vous donne une illustration qui est une histoire vécue par ma fille. Ma fille Tamara, qui il y a une douzaine d'années, elle avait 16 ans, a été très troublée dans une église quelque part en Europe d'une remarque d'un homme de 50 ans qui lui avait faite au sujet de la longueur de son t-shirt. Dans l'église, après le culte. Le t-shirt laissait voir le nombril de ma fille, comme c'était un peu la mode à l'époque. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas ma fille qui a fait scandale avec son t-shirt, mais c'est cet homme qui a été pour ma fille une pierre d'achoppement dans sa foi. Et j'aurais aimé que cet homme, un peu macho sur les bords, il faut le dire, Yvonne confirmera, issu en ligne directe d'une certaine sous-culture évangélique, j'aurais aimé que cet homme puisse s'adapter un peu plus, puisse penser à l'intérêt de cette jeune fille, et non à ses principes, qu'il puisse faire la part des choses entre ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'évangile et la grâce, et ce qu'il est témoin, c'est-à-dire la façon de s'habiller dans l'Église. Il aurait dû se faire tout à tous. Et nous devons nous faire tout à tous avec lui. C'est-à-dire ne pas chercher ce qui m'est avantageux, ce qui me sécurise, ce qui correspond à ma culture ou à ma sous-culture, ou à mes principes, ou à mon héritage familial, ou à mon éducation, ou mes habitudes de vie d'église, ou à mon style liturgique. Mais rechercher ce qui va faire avancer l'autre dans l'évangile et la grâce. Et ce n'est pas très évident. Et il faut en rendre compte de cette difficulté. Et la difficulté vient dans la gestion de ce couple, liberté-amour. Un couple difficile à vivre. Et la liberté, en Christ, elle est en filigrane dans ce chapitre aux Corinthiens. Paul dit aux Corinthiens qu'ils sont libres de manger ou de ne pas manger ces viandes sacrifiées aux idoles, parce qu'ils sont, en tant que chrétiens, sous une nouvelle loi, ou dans une nouvelle loi, la loi de liberté. Mais il ajoute au chapitre 8 et au verset 9, « Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. » Parce que s'il y a une loi de liberté, il y a aussi une loi d'amour, la loi du Christ. Et parce qu'ils sont sous cette loi d'amour, ils vont être prêts à restreindre leur liberté pour ne pas être un obstacle dans la démarche de foi de leurs proches. Et en tant que chrétiens, on est tous dans cette gestion de ce couple. Je suis libre de dire tout ce que je veux, de donner mon avis, d'avoir des opinions et des préférences. Oui, je suis libre sous la grâce de Dieu, mais toujours, parce que je suis chrétien, sous la loi d'amour de Dieu, je suis prêt à me faire tout à tous pour faire avancer la cause de l'Évangile dans la vie de l'autre. Et saint Augustin, au IVe siècle, le disait très bien pour parler de ce couple liberté-amour. Il disait « Aime et fais tout ce que tu veux », avec la primauté de l'amour dans la liberté. Aime et fais tout ce que tu veux. Et pour terminer, mais ce n'est pas encore terminé, j'aimerais parler un petit peu du pourquoi de se faire tout à tous. On a déjà un petit peu répondu à cette question en parlant de l'objectif, c'est-à-dire de gagner des personnes à la cause de l'Évangile. Mais on pourrait se poser la question du fondement aussi. Et ce fondement, c'est le Christ lui-même. Au chapitre 11, au verset 1, juste après avoir parlé de cette adaptation, il dit, soyez, Paul, c'est Paul qui parle, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et comment Christ s'est-il adapté ? En s'incarnant, en devenant chair, en devenant homme. L'incarnation, c'est Dieu fait homme. C'est le summum de l'adaptation. Il l'a fait non pas pour des raisons futiles, mais il l'a fait pour nous gagner, pour nous sauver, pour notre bien à tous. Pour notre bien à tous, Jésus s'est fait homme en Jésus-Christ. Et j'aime à penser que si nous avions été des fourmis, Dieu serait devenu une fourmi. Et il aurait pris le langage des fourmis et il aurait vécu comme une fourmi. Dieu soit loué, nous n'étions pas des fourmis. Mais c'est pour dire. C'est pour dire que, comme il est dit dans Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même, on a déjà parlé du dépouillement, il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, une adaptation portée à son paroxysme. Et Luther a bien compris les conséquences de cette imitation de Christ dans son incarnation, Luther, dont vous avez le portrait dans le hall. « Je veux donc me donner moi-même comme un Christ à mon voisin, comme Christ s'est offert lui-même pour moi. » L'incarnation est à vivre aussi à notre niveau. Et ça, c'est le fondement de notre adaptation. Alors, on peut aller plus loin dans la question du fondement. Le fondement de notre adaptation, c'est l'imitation du Christ dans son incarnation, oui. Mais parlons un petit peu du fondement dans son sens de fondation. Non pas dans notre mode de vie, mais dans notre être, dans notre mode d'être. Et j'ai envie de dire que c'est aussi dans le Christ que nous trouvons cette solidité essentielle qui touche à l'essence, qui touche à notre être, qui nous permet de vivre, se faire tout à tous sans nous perdre nous-mêmes, sans perdre notre identité, sans nous dissoudre. parce que notre identité, elle est en Christ. Et c'est le deuxième fondement de l'adaptation que nous pouvons vivre. Comme le dit Paul aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. À l'époque, en 2011, il y a quelques années, on avait étudié cette lettre et on avait vu l'importance d'être en Christ et on avait même parlé de théologie positionnelle, être positionné en Christ, en Christ. De cette identité en Christ. Et c'est quelque chose de tellement important quand on lit ce que vit Paul dans 1 Corinthiens 9, et vous l'avez peut-être senti, lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de la loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas sous plus... Il est quoi, lui, Paul ? Il est où, là ? Et on pourrait s'y perdre dans ces passages de l'un à l'autre. Et c'est souvent cette peur qui accompagne l'adaptation à l'autre. Ne vais-je pas perdre mon identité ? Et Paul nous répond, non, pas vraiment. On peut perdre quelques plumes dans l'adaptation. Et il en a perdu. Mais notre identité, elle est en Christ. Et Paul n'est plus vraiment juif. Mais il n'est pas vraiment païen non plus. Il n'est pas romain. Même s'il en a la nationalité, il est libre de toutes ses identités car il est en Christ. Et on revient au thème de la liberté, mais dans un sens tellement positif. Parce qu'on est en Christ, on peut passer d'un système à l'autre. On peut s'adapter aux uns et aux autres sans que son identité soit pour autant remise en question. Elle est en Christ. Paul est en quelque sorte libre de toute loi humaine. Il n'est plus sous la loi, comme il le dit dans le texte. Original, il n'est plus sous la loi, mais il est dans la loi d'amour de Christ. Changement de préposition qui est tellement important, non pas sous le poids des lois humaines, mais dans la loi de Christ, et la loi de Christ, c'est celle de la grâce, de l'accueil de ma personne dans la famille de Dieu avec cette nouvelle identité. Christ est le fondement de notre adaptation à la fois comme motivation première par son exemple, mais aussi dans la sécurité qui nous permet de vivre parce qu'il nous offre cette nouvelle identité pour une vie nouvelle. Et cette identité est tellement importante à saisir si on veut vivre pleinement cette vie chrétienne et que ça ne soit pas simplement une adhésion à une religion morte et desséchée. Pendant les vacances, j'ai lu un livre de Timothée Keller. Et le membre de conseil savent que je le lis depuis 6 mois et que j'en suis à la page 200 seulement, il y en a encore 300. Mais je suis tombé sur cette citation et j'ai eu l'impression qu'elle venait tout éclairer. Et je n'ai pas cherché ce texte. Je l'ai lu il y a 3 semaines. Et j'ai eu l'impression que c'était une parole de prophétie. C'est-à-dire une parole qui nous rencontre de manière tout à fait pertinente et qui peut parfois faire mal. Je n'ai pas cherché ce texte, il est venu à moi. Et il vient de Richard Lovelace, qui l'écrit en 1979. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui ne sont pas en sécurité en Christ cherchent des bouées de sauvetage spirituel qui pourraient leur permettre de garder confiance. Et, dans une recherche frénétique, ils s'accrochent non seulement aux parcelles de talent et de droiture qu'ils trouvent en eux-mêmes, mais ils se concentrent aussi sur leurs origines, leur appartenance à tel groupe, leur habitude sociale et ecclésiale et leur culture comme moyen d'affirmation d'eux-mêmes. Ils revêtent leur culture comme si elle était une armure permettant de combattre l'insécurité personnelle. Mais elle devient alors comme une camisole de force mentale qui colle à la chair et qui ne peut être ôtée, si ce n'est par une foi complète en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Lorsque la foi est enfin mise en œuvre, le chrétien a la liberté de s'enraciner dans une culture et de porter sa culture comme on porte un vêtement confortable. Il peut aussi se changer temporairement pour porter d'autres vêtements culturels s'il souhaite le faire, comme le suggère Paul en 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Et il a la liberté d'admirer et d'apprécier les différentes expressions du Christ qui brillent dans d'autres cultures. Et il y a tout, me semble-t-il, dans ce texte, il y a le doigt pointé, prophétique, vers notre insécurité intérieure qui nous fait nous raccrocher à des choses qui ne sont pas essentielles et qui deviennent à force une prison. Mais il y a aussi un appel à retrouver l'Évangile et la grâce de Jésus-Christ qui nous accueille dans son amour et sa justice et qui nous libère de nos peurs. Cette sécurité en Christ nous permet alors de vivre notre liberté en lui, de vivre notre culture avec souplesse, comme on enfile un vêtement confortable, un sweat, comme on dit. Ah. Mais qui nous permet aussi de changer de vêtement avec tranquillité pour nous permettre de vivre le « se faire tout à tous » d'un Corinthiens 9, 22. J'ai trouvé ce texte tellement puissant. Et il nous pose aussi deux questions. Est-ce qu'il y a dans ma vie de foi des choses auxquelles je me raccroche par souci de sécurité, mais qui peuvent, dans lesquelles je pourrais m'emprisonner et qui peuvent devenir des pierres d'achoppement pour ceux qui m'entourent ? Quelles sont mes zones à risque ? Quelles sont mes fausses sécurités qui peuvent devenir des pierres d'achoppement pour les autres, des occasions de chute ? Et puis la deuxième question, ai-je bien saisi toute la portée du salut en Jésus-Christ ? La grâce seule, on est l'anniversaire de la Réformation, la grâce seule, la foi seule, Jésus-Christ seul. Sur quel terrain repose ma foi ? Et la question du terrain est pertinente. Oui, il nous faut imiter Christ dans son incarnation. Oui, notre identité est en lui, mais il nous faut aussi revenir sur le lieu où tout se passe, à la croix. Pour se faire tout à tous, pour gérer le couple liberté-amour, ne nous faut-il pas faire ce détour par la croix dans l'humilité, dans la repentance, dans la reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, de revenir tout simplement à ce scandale de la croix, comme le disait Paul à ces mêmes Corinthiens. La croix est un scandale, une folie qui vient à l'encontre de tout ce que nous pouvions raisonnablement imaginer pour nous sauver nous-mêmes. Mais c'est un bon scandale, dans le sens qu'il est pour le bien de tous, le salut de tous. Et vous vous rappelez que nous avons parlé de cette pierre d'achoppement comme étant le scandalon pour d'autres personnes. Mais comme le disait Timothée Keller, encore lui, quand Paul parle de se faire tout à tous, il ne nous appelle pas à éviter tous les obstacles, il nous appelle en fait à choisir le bon scandale, celui de la croix. Choisir le bon scandale. Ne pas être un scandale pour les autres, mais recevoir tout à nouveau le scandale de la croix dans ma vie, qui renverse mes petites forteresses, qui me libère de mes peurs et qui m'amène à être pleinement en Jésus-Christ. C'est à la croix où Jésus s'est fait tout pour moi que je peux, à mon tour, me faire tout à tous. Amen.